cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 17 décembre 1992.
il y a abstraction. Si mon intelligence n'abstrayait pas, elle ne poserait pas le néant. Et donc, pour ceux qui nient l'abstraction, Garaudy dit que la connaissance est le reflet de le reflet du réel. Donc la dialectique marxiste est le reflet du réel. Et c'est pour ça que je peux appliquer directement la dialectique au réel. C'est le propre justement du marxisme. Si c'est le reflet du réel, il n'y a pas d'abstraction. S'il n'y a pas d'abstraction, il n'y a pas de néant. Il n'y a pas de non-être. Puisque l'intelligence est le reflet de ce qui existe. Alors le néant n'existe pas. Alors comment expliquer qu'il y a le néant? C'est pour ça que c'est très intéressant, le point de vue du non-être poussé à l'extrême qui affirme le néant. On reconnaît qu'il y a abstraction. Et si on reconnaît qu'il y a abstraction, on reconnaît que ce qu'on atteint n'est pas identique au réel. Ce serait peut-être, vous voyez, l'argument ad hominem, le meilleur pour montrer les erreurs de Heidegger. Heidegger se sert du néant pour affirmer. Et comme c'est l'ontologisme, l'ontologisme prétend que ce que nous connaissons, c'est l'être. Vous voyez, tu vois, prétend que l'intelligibilité saisie dans notre intelligence, c'est la réalité. On passe de ce qui est vécu au réel. Or, on ne peut pas faire ça dès qu'on reconnaît l'abstraction. Or, tous les ontologistes reconnaissent le néant. Et par là, il y a une contradiction interne dans le système. Point de vue critique. Alors, je reviens à la question posée. Ne peut-on pas assimiler l'être en puissance? Non, l'être en puissance n'est pas du non-être. C'est une privation d'une certaine forme, d'une certaine détermination. C'est pas du non-être. L'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Il est posé à partir de l'être en acte. Il est ordonné à l'être en acte. Le néant est-il ordonné à l'être en acte? Non. Le néant, c'est le néant. C'est rien. Si vous disiez que le néant était ordonné à l'être en acte, vous mettriez dans le néant le possible. Et vous mettriez donc une certaine détermination dans le néant. Ce ne serait plus le néant. Oui. Sûrement que la philosophie de Sartre, qui est la philosophie du primat du non-être, exige de nous de spéculer sur le néant. C'est les modernes qui spéculent sur le néant. Donc, il faut bien comprendre ce que c'est. Aristote reconnaît dans le non-être différents degrés. Et ça, c'est très fort par rapport à Platon. Il y a le non-être de la privation et le non-être applause absolu. Le non-être absolu, c'est le néant. le non-être relatif, ce n'est pas le néant, puisque c'est un être relatif à autre chose. Vous voyez ? Donc, vous pouvez, à partir du non-être, qui est le fruit de la négation, reconnaître des degrés. Et si vous pouvez reconnaître des degrés dans le non-être, ça prouve qu'il y a abstraction par rapport à la connaissance. C'est le dernier cours de philosophie première de l'année 1992. Alors on va regarder ce que c'est que le bien. Non, parce que c'est le dernier cours, c'est le... J'ai pas fait exprès que ça se termine sur le bien. Mais c'est bien que ça se termine sur le bien. Donc, voyez toujours et réfléchissez sur ces différents aspects. Laissez le vrai et la vérité et le bien et la bonté. On laissera tomber l'opération vitale et le mouvement, qui sont des mini-actes. C'est-à-dire qu'ici, ça c'est l'être en acte. Substantiellement. Donc l'être en acte premier, au sens le plus absolu. Substantiellement et l'être en acte dans l'esprit. Donc métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit. Et vous voyez, métaphysique de l'être et métaphysique de l'esprit s'unissent dans la métaphysique de l'acte. C'est ça qu'il faut bien saisir. Parce qu'on peut dire que dans notre philosophie européenne, et on pourrait dire la même chose pour la philosophie de l'Inde. C'est intéressant de voir que du côté de l'Inde et du côté de la philosophie européenne et de la philosophie américaine, par le fait même, puisqu'il y a une dépendance entre les deux, que le grand problème métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit, second de l'être et de l'esprit. Dieu est. Et en tant qu'il est, il est esprit. Dieu est esprit. Jésus le dit. L'Ancien Testament, je suis. Dieu est esprit. C'est quand même intéressant de voir ça. Hein. Alors voyez, hein, dites pas, ne faites pas cette erreur. Donc dans l'Ancien Testament, je suis. Et Jésus dit, le Père est esprit. Alors, vous voyez, hein, je dis ça exprès pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Aristote, Descartes. Il y a un petit fondement là-dedans. Aristote, l'alliance première. Descartes, l'alliance seconde. Parce que Descartes, il est chrétien. Ah oui, le piège. Descartes, il est chrétien. Aristote ne l'est pas. Donc, la philosophie de Descartes passe avant celle d'Aristote. Les bons chrétiens disent ça. Pas très intelligent. Mais on peut être bon chrétien sans être très intelligent. Heureusement, Dieu aime les petits. Alors, mais les bons chrétiens disent ça. Parce que Descartes, on a condamné saint Thomas. Parce qu'à la place de s'appuyer sur Avicenne, il s'est appuyé sur Aristote, le païen. Et vous voyez, c'est très curieux, mais c'est quand même très curieux, parce que ça fait comprendre. 1, 2, le fondement, l'ultime, c'est vrai. Mais Jésus, en disant « Dieu est esprit », affirme aussi « Je suis ». Il reprend tout l'Ancien Testament. Il vient achever et non pas s'opposer. Vous voyez bien comment la pensée chrétienne n'est pas dialectique. Si la pensée chrétienne était dialectique, Jésus dirait « Je viens pour m'opposer à l'Ancien Testament et faire la synthèse. » Pas du tout. Je viens accomplir. C'est tout à fait différent comme manière de regarder. Alors, l'affirmation « Je suis », Dieu est esprit. Il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Descartes, parce qu'il est chrétien, exalte l'esprit, exalte la liberté. Quand on met l'esprit avant l'être, on met la liberté avant le bien. Et c'est la liberté qui devient la structure de la République. Et en venant la structure, elle détruit tout. Il n'y a plus de structure. Il faut saisir ça au point de vue de la pensée, au point de vue métaphysique. C'est très important. La liberté ne structure rien. Parce qu'il y a des actes libres, il n'y a pas la liberté. Oui. Tandis que l'être implique la substance et structure et conduit au bien. Donc, ça, c'est pour vous amuser. Hein. C'est pour vous amuser. C'est... De temps en temps, il faut quand même un peu d'humour en métaphysique. Alors, vous voyez, le point de vue de l'Europe... de l'Europe, c'est la Grèce. Point de vue de la pensée, on ne peut pas nier. C'est la Grèce. Et avec le Logos. Le Logos d'Héraclite et le Logos qui va faire le passage avec le point de vue de la théologie. Le théologien Jean Logos. et la patrie du Logos, Éphèse. Comprenez bien ça, c'est extrêmement significatif. Et le Logos, donc Aristote aussi, et le point de vue Héraclite. Et le Logos implique le point de vue de la pensée, l'idée, avec Descartes. Alors, maintenant, réfléchissons sur ce fait que l'acte de l'esprit, c'est le vrai et c'est le bien. Et le vrai et le bien sont des modes particuliers de l'acte, de l'être en acte. Et c'est en ce sens-là que la métaphysique de l'être en acte assume la métaphysique de l'esprit. Et ne s'y oppose pas du tout. Elle assume. Tandis que si je mets l'esprit en premier lieu, la métaphysique de l'esprit relativise la métaphysique de l'être, et je ne peux plus saisir ce que c'est que l'être en acte. C'est ça qui est intéressant, vous voyez, c'est comme toujours, quand vous voulez comparer deux choses, regardez lequel peut assumer l'autre, et lequel n'assume pas l'autre. Et comment l'autre ne peut pas assumer le premier. La métaphysique de l'être peut assumer la métaphysique de l'esprit. La métaphysique de l'esprit, si elle est première, ne peut pas assumer la métaphysique de l'être. Parce qu'elle ne peut plus saisir ce qu'il y a de premier. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien ? Saisir qu'est-ce que c'est que le bien et comprendre que le bien va se développer ou va être, va exister comme ce qu'il y a d'ultime pour l'homme, pour l'esprit. irréductible, ça ne veut pas dire quelque chose qui est en opposition à la métaphysique. Pas du tout. Mais ont quelque chose de propre. Jamais la philosophie première pourra remplacer l'éthique. Jamais la philosophie première pourra remplacer la politique. Éthique et politique ont quelque chose d'unique à dire au point de vue philosophique. Pourquoi ? Parce que c'est le problème du bonheur de l'homme. Bonheur personnel. Et puis, développement communautaire. L'homme est naturellement un animal politique. Il est naturellement un animal politique. Et ça, vous ne supprimerez pas ça. Et donc, il y a, dans le point de vue de l'homme, dans la philosophie humaine, l'aspect politique qui est distinct de l'éthique. Je ne peux pas dire simplement que la politique est quelque chose de second, relatif à l'éthique. Non. Il y a quelque chose de propre à la politique, irréductible à l'éthique. Parce qu'il y a dans l'homme toujours ces deux dimensions. La dimension communautaire et la dimension personnelle. Que la dimension communautaire ait besoin de la dimension personnelle, c'est bien évident. Mais la dimension communautaire ne peut pas se déduire de la dimension personnelle. Elle a quelque chose de propre, quelque chose d'unique. Ainsi du bien commun. Alors, et c'est important ici, vous voyez, parce que vous allez avoir tout de suite deux biens, le bien commun et le bien personnel. Et le bien au niveau métaphysique. Il y a donc, et c'est à partir de là qu'on doit partir, hein, au point de vue philosophique. On doit se poser la question, qu'est-ce que c'est que le bien ? Le bien, pour l'homme, c'est son bonheur. C'est son développement. Plénier, parfait. Comme il est complexe, comme l'homme est un être complexe, nécessairement, il y a un bien à des niveaux différents. Et ce bien à des niveaux différents fait que l'homme ne peut pas acquérir tous les biens. Mais il y a un ordre. Et le bonheur humain implique un ordre. Et à ce point de vue-là, le bonheur humain va impliquer la recherche de la vérité. Parmi les bonheurs humains, il y a le point de vue du bien de l'intelligence, du bien de l'esprit, qui est la recherche de la vérité. Je ne peux pas être heureux sans la recherche de la vérité. Condition sine qua non. Ça va très loin, ça, hein, d'affirmer ça. Parce que si j'affirme ça, vous affirmez que pour quelqu'un qui veut atteindre la contemplation, il lui faut absolument la recherche de la vérité. Et que la contemplation implique cette recherche de la vérité. C'est un moyen conjoint. La recherche de la vérité, en tant que recherche, c'est un moyen. Mais la vérité, en tant que vérité, est un terme. C'est une fin. Et qui n'est pas relative au bien, qui est le bien de l'intelligence. Et donc le bien spirituel.
Précisé en philosophie.
que le bien, c'est ce que tous désirent. Et ma volonté est tout entière tendue vers le bien. Ma volonté est bonne quand elle atteint le bien. Mais le bien est au-delà de la volonté. Puisque le bien est ce qui attire la volonté. Donc il est antérieur à la volonté. Et je vois là, par le fait même, que le bien est l'être en acte pour mon appétit spirituel. Puisqu'il est ce qui attire mon appétit spirituel. Bien, c'est l'être en acte de l'esprit. Alors, je vois tout de suite que l'esprit a deux êtres en acte. Le point de vue du vrai et le point de vue du bien.
C'est en se posant la question que je comprends
pour cela que j'ai mis le vrai avant. Pour qu'on voit que le vrai est vraiment un mode de l'acte. Mais maintenant que je découvre le bien, est-ce que je vais relativiser le vrai ? Ou bien je ne relativise pas le vrai et je considère que le vrai a son absolu, qui n'est pas relatif au bien, qui s'impose par lui-même. Vous voyez comme c'est important, parce qu'autrement, je mettrais une métaphysique du bien irréductible à la métaphysique du vrai. Et je n'arriverai plus à la métaphysique de l'être. J'opposerai la métaphysique de l'être et la métaphysique du bien. J'opposerai la philosophie première et l'éthique. Et je dirai l'éthique est un absolu, comme le point de vue de la métaphysique de l'être. Tandis que si je maintiens l'absolu du vrai, je maintiens l'absolu de la philosophie première, de l'être. Je crois que tout est là. Or, il y a des philosophes, Platon, le néoplatonisme, qui affirment que la métaphysique du bien va plus loin que la métaphysique de l'être. Il y a Bonaventure, Saint Bonaventure, qui est pour la métaphysique du bien. Et chez les modernes, on pourrait dire que la métaphysique des valeurs l'emporte sur le point de vue de la métaphysique de l'être. Donc on touche un problème très très important au point de vue de la pensée, au point de vue de la structure de la pensée. Le bien pris en lui-même, donc pris du côté métaphysique, finalise ma volonté et finalise par le fait même l'homme. Il y a donc quelque chose d'ultime. Je ne peux pas dire que le bien est relatif, comprenez bien, est relatif à l'être. Il est le bien. Alors, relatif à l'être, convertible avec l'être, la ratio body, au plan critique, convertible avec l'être. Et quand je dis convertible avec l'être, je dis qu'il est l'absolu comme l'être. Qu'il y a en lui quelque chose d'absolu. Et donc, qui répugne à dire que le bien est relatif à l'être. Je peux dire que pour moi, l'être s'impose comme premier. Mais cette primauté de l'être sur le bien ne relativise pas le bien par rapport à l'être. Sauvegarde l'absolu du bien. Le bien a quelque chose d'absolu. Quand Thomas d'Aquin se pose la question, qu'est-ce qui est premier, l'être ou le bien ? Il dit que le bien est premier. Il dit que le bien est premier du côté de la causalité et que l'être est premier du côté de l'intelligibilité. Très joli ça, et c'est très intéressant. Alors, indépendamment de Thomas d'Aquin, comprenons. Et le bien peut me rendre heureux par l'amour. Il n'y a de bonheur que dans l'amour. Et c'est le bien qui suscite en moi cet amour. Le bien d'une personne épanouit en moi un bonheur par l'amour de cette personne. Donc je vois bien que du côté de la finalité, c'est le bien qui finalise, ce n'est pas l'être. Et la cause des causes, c'est la cause finale qui suscite en moi un amour. Mais ce bien qui me finalise implique une connaissance. Il faut connaître ce bien pour qu'il puisse me finaliser. Donc, l'intelligibilité de ce bien est une condition sine qua non pour que ce bien puisse me finaliser et exercer sur moi sa finalité. Je vois donc comment l'être est intégré dans le bien. Je dis bien intégré dans le bien. Il est présent dans le bien. Pour que le bien puisse exercer sur moi sa finalité, il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il soit connu. Et il est connu parce qu'il est, parce qu'il existe. Le bien implique donc l'essai. L'essai est présent dans le bien. Je ne dis pas qu'il est relatif à l'essai, il intègre l'essai. L'essai est présent dans le bien. Le bien ne peut exercer sa finalité sur moi que parce qu'il existe. Un bien idéal, donc c'est-à-dire un bien possible, n'exerce pas sur moi sa finalité. Il peut être pour moi cause exemplaire. Il peut être pour moi une valeur. Mais la valeur n'implique pas nécessairement l'exister. Tandis que le bien, oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter à une philosophie des valeurs. Il y a une éthique des valeurs. Ce n'est pas suffisant. On reste encore idéaliste. Il faut dire ça aux hommes politiques qui parlent uniquement de la valeur. Il y a un petit relent idéaliste qui demeure. Et c'est dangereux. Parce que ce relent idéaliste empêche d'aller jusqu'au bout. Et donc empêche de regarder la personne humaine dans son absolu qui atteint sa finalité et qui atteint le bien. Donc nous voyons comment le bien est premier du côté de l'exercice de la finalité, mais que l'être est premier du côté de son intelligibilité. Donc vous avez bien deux premiers. Un premier du côté de la vérité, puisque nous avons vu que le vrai, c'est l'être en tant qu'il est intelligible et en tant qu'il est capable de finaliser mon intelligence. Et vous avez un premier du côté de l'exercice pratique, la finalité. Pratique, éminemment pratique, puisque ça me donne la contemplation. Et je comprends comment la contemplation peut me finaliser. Parce que dans la contemplation, le vrai et le bien s'unissent. Et donc, seule la contemplation bonheur de l'esprit. En dehors de la contemplation, il y aura toujours une certaine dualité. Et je n'arriverai pas à l'unité profonde de mon être personnel. Je resterai dans une certaine dualité. Je verrai que je ne pousse pas jusqu'au bout la recherche du vrai. Et je ne pousse pas jusqu'au bout la recherche du bien. Je peux donc, à partir de là, comprendre comment le vrai, qui est l'être en tant qu'il est capable de perfectionner mon intelligence, d'actuer mon intelligence, d'actuer donc mon esprit dans ce qu'il a de plus radical. Le vrai est autre pour moi que le bien. Et quand je dis que le vrai est le bien de l'intelligence, je montre bien que le vrai comme tel est une modalité de l'acte. Et que cette modalité de l'acte s'impose à mon intelligence et n'est pas relative au bien. Il est pour moi le bien. C'est ça que je veux dire quand je dis que le vrai est le bien de l'intelligence. Il est pour moi le bien de mon intelligence. Si le vrai n'était pas le bien de mon intelligence, la contemplation ne serait plus ma finalité. Ma finalité personnelle. C'est-à-dire d'un être spirituel, d'un être capable d'atteindre la vérité. Mais je reconnais que dans l'ordre de l'exercice, dans l'ordre de la causalité, le bien a quelque chose d'unique. Irréductible au vrai. Il me finalise. Il suscite en moi un amour. Il faut avoir l'amour du vrai pour pouvoir contempler. Il faut avoir l'amour de la vérité pour aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité et donc pouvoir atteindre ce qu'il y a d'ultime. Comme si important de saisir que dans l'esprit humain, il y aura toujours ces deux aspects. Recherche de la vérité, recherche du bien. Ou plus exactement, recherche de la vérité et attraction du bien. C'est plus juste de dire ça, parce qu'il n'y a pas une recherche du bien, il y a l'attraction du bien. On est attiré par le bien et on recherche la vérité. Et cette recherche de la vérité atteint quelque chose d'ultime grâce à l'attraction du bien. Mais ce n'est pas l'attraction du bien qui est l'ultime, c'est la découverte de la vérité. Dans cette attraction du bien, ceci permet de comprendre qu'il y a bien ces deux modalités de l'acte, de l'être en acte, au niveau de l'esprit, le vrai et le bien. Le bien a ce privilège unique de susciter en moi un amour. L'amour, c'est ce qui me lie au bien. Je suis lié au bien par l'amour. Je suis lié au bien directement, immédiatement par l'amour. Cet amour, pour pouvoir me lier au bien, réclame d'être vrai, d'être authentique, comme on dit aujourd'hui, immédiatement par l'amour. Et donc le bien a aussi quelque chose d'absolu. Et comme c'est étonnant de voir la structure de l'esprit humain par le point de vue du vrai et par le point de vue du bien. Et si je ne maintiens pas ces deux, je mutile mon esprit. Celui qui ne recherche pas la vérité mutile son esprit. Et donc, il crée en lui un manque qui fait que jamais il ne sera heureux.
Comme ce refoulement de la vérité, il est très ancien dans notre monde.